Dans la deuxième vague du féminisme des années 70, on a identifié un certain nombre de problématiques. Je vois qu'il y a une nouvelle vague de féminisme chez des femmes d'environ 35-40 ans. Mais j'ai l'impression que quand elles prennent la parole, qu'elles rencontrent une société teflon. Alors que nous, quand nous avons écrit, contesté, etc., la société pouvait subir quelques-uns des chocs qu'on allait lui infliger. Mm-hmm. Maintenant, j'ai l'impression que la société est teflon concernant les femmes, mais concernant beaucoup d'autres problématiques aussi. Ça, c'est... Ouais.
Non, ben, je suis assez d'accord avec toi. Dans mon milieu, on forme 80%, dans mon département, on forme 80% de femmes en littérature avec des doctorats, c'est 80 et 20% de garçons. Or, c'est pas grave, ils sont bons les garçons aussi, là, mais aussi. Mais les garçons sont beaucoup plus assurés d'avoir des postes que ces 80%. C'est-à-dire que parmi ces 20% de garçons, ils vont sûrement avoir plus facilement du travail. Je ne dis pas qu'ils en auront tous, statistiquement, là, hein, que ces jeunes femmes que nous formons. Alors, oui, on peut toujours se dire ça avance, mais il y a quand même quelque chose qui reste, même dans les départements de lettres qui sont dits féminins, qui sont dits des départements de filles. Et,
J'ai rencontré tout récemment une jeune comédienne de 35 ans et sa colère était immense. Mm-hmm. Mais j'ai dit, on disait la même chose il y a 30 ans, mais sa colère était immense. Ouais. Mm-hmm.
Oui, vas-y, excuse-moi.
Moi, non, j'avais envie de dire quelque chose d'un peu peut-être provoquant ou pas très intéressant, mais je crois qu'on peut être dégoûté des deux régimes, quoi. Je crois qu'il y a une... soit le régime masculin... Enfin, et puis de reconnaître aussi l'enchevêtrement des deux, parce que...
Excuse-moi, régime ?
Les régimes.
Deux régimes ?
Oui, on pourrait en débattre, on pourrait dire qu'il n'y en a qu'un seul, et on pourrait aussi dire qu'il y en a plusieurs, je crois. Je ne vais pas contester le fait que ce soit une société organisée de façon patriarcale. Ça, mais je crois qu'à l'intérieur, malgré les efforts qui ont été faits, je crois que dès qu'une idéologie, et c'est ça qui me fait peur, moi, c'est l'idéologie, et d'ailleurs pour moi, la cité renvoie à la place publique, et la place publique, c'est avant tout, même si ça se veut le lieu de la démocratie, c'est aussi le lieu de la potence. Alors ça aussi, il faut en tenir compte. Et quelle que soit la personne qui détient le pouvoir, et dès que le féminisme s'est institutionnalisé, dès que les études queer se sont institutionnalisées, mm-hmm. dès que les études postcoloniales se sont institutionnalisées, c'est-à-dire ont trouvé une place légitime à l'intérieur des universités, elles n'ont fait que propager et répéter les mêmes structures de pouvoir, d'oppression, d'écrasement, etc. Je crois que on est sans cesse confronté à l'humain, quel que soit, et je vais jamais remettre en question ce que tu es en train de dire sur le plan politique, dans la ville, sur la place publique, etc. Mais je crois que c'est un problème de... C'est vraiment, pour moi, c'est un problème de consensus. Et moi, le consensus, il me fait peur. Parce qu'il y a toujours une extinction des voix à ce moment-là.
Mais bien sûr. Et là, tu parles comme une écrivaine. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on prend la parole d'une manière individuelle et singulière. Ça, c'est tout à fait normal. Moi-même, je veux dire...
Tu peux être en contradiction avec ça.
Je ne suis pas écrivaine pour accepter la voix majoritaire. Mmh. Je veux dire, j'ai toujours... une marginalité que je cultive. Parce qu'on peut être marginalisé, mais on peut cultiver sa marginalité et apprendre beaucoup de cette marginalité-là aussi. Mais dans le féminisme, il y a eu trois éléments. Il y a eu la mise en commun des femmes de leur expérience personnelle, singulière, qui a permis, à partir de ces expériences, de comprendre un système, une partie du système. Il y a eu, bien sûr, des prises de position politiques, parce qu'une fois qu'on a compris un phénomène, on veut passer à l'action. Et bien sûr qu'il y a des paroles, il y a des énoncés qui ne sont pas jolis du tout, mais qui avaient leur efficacité politique. Et puis, il y a aussi la pensée philosophique, la réflexion qui a été faite par les femmes avec une conscience féministe sur l'imaginaire, sur le symbolique, sur la langue, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, mais ça, c'est la condition humaine qui transforme des efforts de réflexion en médiocrité quotidienne d'application. C'est ça.
Mais est-ce que ça arrive à la question, est-ce que la poésie peut... La poésie et la politique ne peuvent pas, ou le politique ne peuvent pas du tout coïncider.
Il faut forcément, puisque les poètes ont été rejetés de la cité.
Le jeu et le nous, parfois, se rencontrent. Mm-hmm. Au Québec, ils se sont rencontrés mm-hmm. avec, sur la question nationale, mm-hmm. Gaston Miron, Jacques Brou, Michel Lalonde, Paul Chamberlain, et puis ils se sont rencontrés sur la question féministe, c'est-à-dire le je et le nous. Quand une femme dit je, tout le monde entend nous, puis quand une femme disait nous, tout le monde entendait je. Et la même chose s'appliquait aussi par rapport aux mm-hmm. Québécois colonisés. C'est arrivé avec Sangar, mm-hmm. c'est arrivé mm-hmm. avec Dépestre, c'est arrivé avec mm-hmm. Miron, bien sûr. Donc, ça se produit rarement dans l'histoire en général, cette rencontre du je et du nous, mm-hmm. mais elle est toujours quelque part présumée, cette rencontre-là, parce que lorsqu'on écrit de la poésie, il y a une partie de notre jeu qui est au travail, mm-hmm. qui pleure, mais il y a une partie de notre condition humaine qui pleure ou qui est lumineuse. Donc, il y a toujours dans notre écriture une partie qui nous appartient singulièrement, mais ce n'est pas la plus intéressante, c'est celle où par laquelle le partage se fait avec ce qui est en chaque être. C'est là que ça devient, ça se partage, ça peut se partager.